Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net partout dans le monde. Cette émission sera diffusée mardi matin de 7 à 8. Et je le rappelle, très bientôt téléchargeable sur le site de RESF, http://resf.info/radio. Et on vient d'écouter donc un petit morceau, parce qu'on ne pouvait pas tout écouter, ça m'aurait malheureusement pris trop de temps, de Toulouse. Toulouse, c'est HK et les Déserteurs, qui ont réinterprété un certain nombre de chansons françaises. Et c'est à écouter parce que c'est vraiment un chouette album. Donc Alice, tu vas nous parler de ce rapport interassociatif. Donc pourquoi interassociatif d'abord, et donc ce rapport sur les centres de rétention et les locaux de rétention administrative, c'est-à-dire là où on enferme les étrangers, enfin les prisons pour étrangers.
Qui sont en situation irrégulière, effectivement. Du coup, c'est
en général en situation irrégulière.
En général, en situation irrégulière, bien sûr, je vais y revenir, parce qu'en plus, ce n'est pas le cas de tous les gens qui sont enfermés dans ces lieux. Donc, un rapport interassociatif, parce que c'est le rapport qui est fait par les 5 associations présentes dans les centres de rétention, et qui sont présentes dans ces centres et locaux de rétention, enfin, centres surtout, pour aider les personnes enfermées à exercer leurs droits, notamment dans le cadre d'un marché public. Donc la CIMADE a été longtemps seule à exercer cette mission, et depuis près de 5 ans, il y a 5 associations qui exercent cette mission. Donc c'est la CIMADE, l'Ordre de Malte, France Terre d'Asile, Forum Réfugiés et l'ASFAM, qui sont répartis du coup dans les centres de France. Du coup, là, c'est un rapport qui est donc le rapport de 2013 et qui est particulièrement alarmant, puisque 2013, c'est donc la première année complète du mandat de la majorité actuelle, et on constate qu'en fait, on est dans la lignée, la même lignée que ce qui se passait auparavant, avant l'élection de François Hollande. Évidemment, il y avait des espoirs de voir changer pas mal de choses, notamment puisque à l'époque, notamment de la loi Besson en 2011, la majorité actuelle s'était inscrite en faux contre nombreuses dispositions qui étaient proposées, notamment au niveau de la rétention. On y reviendra, mais c'est sur la durée de la rétention qui a été allongée en 2011, qui est passée de 32 à 45 jours, ou encore sur le passage devant un juge au cinquième jour et non plus au deuxième jour.
Et qu'en fait, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, voilà, je crois qu'elle est passée de 6 jours à 12 jours, de 12 jours à 32 jours,
ouais,
puis de 32 jours à 45 jours.
7, 12, 32, 45, ouais.
En attendant les 18 mois.
C'est ça, qui sont aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, la possibilité, c'est d'aller jusqu'à 18 mois d'enfermement des étrangers dans les lieux comme ça d'enfermement. Et en France, aujourd'hui, c'est 45 jours, mais effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit rallongé encore dans les années qui viennent. Le problème, c'est que le constat qu'on fait, c'est qu'en général, quand l'administration parvient à expulser un étranger placé dans un lieu d'enfermement comme ça en France, ça se fait dans les 10 premiers jours. En général, selon le rapport de 2013, c'est 62% des personnes qui sont expulsées le sont dans les 10 premiers jours. Donc ça montre que, en général, les 30 jours suivants ne servent pas vraiment à mettre en œuvre l'expulsion de la personne. Et du coup, ça a vraiment une visée, selon nous, dissuasive et punitive, au-delà du but qui est premièrement et officiellement recherché, de pouvoir expulser les gens. Parce que du coup, peut-être pour recontextualiser rapidement la rétention, donc ce sont effectivement des centres et des locaux où sont enfermés les étrangers qui ont été soit interpellés dans la rue, soit qui ont été arrêtés à la frontière ou sortant de prison, et dont l'administration estime qu'ils n'ont pas les papiers en règle pour se maintenir sur le territoire français.
Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir qui est arrêté, d'abord dans quelles conditions les gens sont arrêtés, combien de personnes sont arrêtées, et le fait qu'allonger la durée de rétention... Ça n'augmente pas le nombre de...
Non, c'est ça, parce qu'on est à peu près sur les mêmes chiffres qu'auparavant. Là, en 2013, on est sur environ 45 000 placements en centre de rétention. Et parmi ces personnes, il y a environ 49%, presque 50% de ces personnes qui sont effectivement expulsées. Les autres étant soit libérées par les juges devant lesquels elles passent, soit libérées à la fin de la période de la rétention, ou soit libérés dans une moindre mesure par décision de l'administration qui régulièrement, enfin en général, quand ça se produit, quand c'est l'administration qui décide finalement de libérer quelqu'un, c'est qu'elle s'aperçoit qu'elle a commis une erreur et elle décide donc de le libérer. Ce qui peut arriver par exemple pour des personnes dont on s'aperçoit dont l'administration s'aperçoit rapidement qu'en fait, elles étaient en situation régulière. Ce qui arrive assez souvent, je peux donner un exemple, c'est notamment les personnes qui sont titulaires de titres de séjour dans un autre pays de l'Union européenne, qui du coup, normalement, peuvent circuler en France pendant 3 mois, mais ne peuvent pas travailler. Et il arrive que l'administration leur demande, estime qu'elles sont là depuis plus de 3 mois, puisqu'elles ne peuvent pas prouver le contraire. Et dans ce cas-là, elle les place en centre de rétention en leur disant « à vous de prouver que vous êtes là depuis moins de 3 mois. Si vous ne le pouvez pas, on vous expulse dans le pays où vous avez votre titre de séjour. » Et ça arrive très régulièrement, notamment au Ménil-Amelot, ça arrive toutes les semaines, que ces personnes viennent nous trouver, nous disent « bon, au moment de l'interpellation, effectivement, j'avais pas mon billet d'avion. Là, le voilà, je suis là depuis 2 mois, j'ai mon titre de séjour en Italie, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On informe la préfecture de tout ça, et elle peut les libérer assez régulièrement.
Voilà, ou sinon assez on expulse rapidement. Vers l'Italie.
Sinon, effectivement, évidemment, on expulse vers l'Italie, et c'est ce qui arrive, puisqu'il y a un des constats qui est très important dans le rapport 2013, et puis c'est toujours la même chose en 2014, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont placées en rétention, puis expulsées, avant d'avoir pu voir un juge. On est à plus de 50% des personnes qui sont placées en centre de rétention qui ne voient pas de juge. Ça veut dire qu'elles sont placées dans ces centres sur une décision de l'administration.
50% des gens qui sont placés en rétention ou qui sont expulsés depuis la rétention.
50% des gens qui sont expulsés, ouais, le sont sans avoir vu de juge. Non, je te dis 50%, mais je voulais vérifier si c'est vraiment ça. Non, c'est 54%.
54%, ouais.
Le sont sans avoir vu le juge qu'on appelle le juge des libertés et de la détention, qui est le juge qui, quand même, vérifie le travail fait par l'administration, puisqu'il vérifie les conditions, notamment d'interpellation, et vérifie qu'il n'y a pas eu de vice de procédure. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'on constate que parmi les gens qui passent devant les centres le juge des libertés et de la détention, 27% sont libérés par ce juge. Ça veut dire qu'il y a quand même, dans quasiment 30% des cas, les interpellations sont irrégulières. Et la décision, la procédure utilisée par l'administration est illégale, en fait.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que le contrôle du juge est particulièrement important dans ce cadre-là. On en parlait tout à l'heure avec Philippe. Il y a ce qu'on appelle les rafles, qui sont des interpellations massives où l'administration va, enfin une préfecture, va cibler une zone, souvent avec des réquisitions du procureur qui dit « dans cette zone-là, vous pouvez interpeller les gens parce qu'on pense qu'ils ont commis un acte délit ou criminel. Vous pouvez interpeller les gens. » Interpellations qui se font généralement au faciès. Et du coup, on interpelle comme ça entre 10 et 100 personnes ou plus. Et en général, les conditions d'interpellation ne peuvent pas être remplies, les conditions légales d'interpellation ne peuvent pas être remplies, puisque quand on interpelle beaucoup de gens comme ça, il y a forcément des manques qui sont faits par l'administration. Et c'est ce que contrôlent les juges, et c'est ce qui fait que parfois ils décident de libérer les personnes.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est un constat qui est important. C'est pour ça que, donc, on a vu que, avec la loi de 2011, qui a été une des lois, il faut savoir qu'il y a énormément de réformes en droit des étrangers très régulièrement. La dernière grosse réforme, c'était en 2011, avec la loi Besson, donc, qui était à l'époque du gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Et à cette époque-là, le passage devant le juge, qui était jusque-là à 48 heures, est passé à 5 jours. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui arrivent au centre de rétention et qui ne voient pas le juge avant 5 jours et qui du coup ont largement le temps d'être expulsés entre-temps, puisque ce passage devant le juge n'est pas suspensif, ce qui signifie que l'administration peut très bien expulser quelqu'un dans ces 5 jours-là. Et c'est ce qui arrive régulièrement.
Et le passage devant le juge administratif,
c'est... Alors, le passage devant le juge administratif, c'est une autre problématique, puisque le juge administratif, c'est le juge qui va plutôt, pour le coup, contrôler la légalité des mesures qui ont fondé le placement en rétention, puisque l'administration, pour pouvoir placer quelqu'un en rétention, doit prendre des décisions administratives qui sont généralement, je vous dis, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire, qui est prise sur le fondement de la situation de la personne. L'administration dit, vous êtes en France depuis 2 ans, vous n'avez pas particulièrement de famille en France, vous n'avez pas forcément des attaches, donc on vous demande de quitter le territoire. Et suite à cette décision, l'administration dit à la personne, en gros, on ne vous fait pas confiance, on ne pense pas que vous allez quitter le territoire par vous-même, donc on décide de vous placer en rétention. Sachant que le placement en rétention, normalement, est censé être une exception. C'était notamment une des promesses de François Hollande qui disait la rétention deviendra vraiment une exception, on trouvera d'autres moyens de réguler les flux migratoires, comme il les appelle, sans passer forcément par la case rétention. Finalement, on se rend compte que c'est pas du tout devenu une exception. C'est encore un outil complètement banal. Hein. Il y a encore énormément de gens qui passent dans les centres de rétention. Et en fait, le juge administratif va venir contrôler cette mesure, qui est quand même assez souvent illégale, puisqu'il y a environ 10% des libérations qui se font suite à une annulation de ces mesures par le juge administratif. Donc encore une fois, ça veut dire que ce juge-là estime que la décision prise par l'administration est illégale, puisque l'administration fait des erreurs. Et du coup, là, ce que je disais tout à l'heure, 27% des personnes qui sont libérées par le juge des libertés et de la détention, plus 10% qui sont libérées par le tribunal administratif, on en est à presque 40% de personnes qui sont libérées par les juges, donc parce que l'administration a commis des erreurs. Voilà. Donc ça montre que la rétention, enfin, et le travail de l'administration dans ce domaine-là est loin d'être parfait, quoi.
Voilà, il y a quand même beaucoup de bavures.
Ouais. Après, sur les personnes qui sont placées en centre de rétention, ce qu'on constate également, qui est complètement dans la même lignée que les années précédentes et que cette année 2014 aussi, puisque là on parle vraiment de 2013, mais finalement on est un peu sur les mêmes constats pour l'instant cette année, puisqu'on est déjà en décembre. Et notamment, il y a beaucoup de personnes qu'on dit vulnérables qui sont enfermées dans les centres de rétention. Je pense particulièrement aux personnes qui sont atteintes de troubles de santé, pour lesquelles l'administration ne met pas forcément en branle dès l'interpellation toute la procédure liée aux troubles de santé de la personne. C'est une procédure assez opaque et très mal définie, donc qui est un peu compliquée. Et nous-mêmes, puisqu'on est plutôt quand même sur l'exercice des droits, on n'est pas médecin, donc on n'a pas trop de visibilité sur ces problématiques-là. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de santé et qui se retrouvent dans les lieux de rétention, qui n'est pas un lieu pour soigner des gens malades et qui notamment parfois se retrouvent expulsés dans un pays où le traitement dont ils ont besoin n'est pas disponible.
Ouais.
Parmi les autres personnes vulnérables, il y a aussi des demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de gens qui sont placés en centre de rétention alors qu'ils ont informé lors de l'interpellation la police qu'ils souhaitaient demander l'asile puisqu'ils étaient en danger, ils estimaient être en danger dans leur pays d'origine. Et l'administration, en fait, en centre de rétention, il est possible dans les 5 premiers jours de déposer une demande d'asile, mais la demande d'asile en France doit être rédigée en français, donc ça veut dire que les gens ont 5 jours pour raconter toute l'histoire de leur vie, expliquant pourquoi ils ont des craintes de retourner dans leur pays d'origine. 5 jours pour rédiger ça, donc souvent avec l'aide des associations, dont la CIMAD, qui sont dans les centres de rétention. Mais voilà, ça reste très compliqué de rassembler des preuves, de pouvoir prouver toute cette histoire et convaincre les autorités. Donc là, c'est l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, convaincre l'OFPRA que vraiment la personne est en danger dans son pays d'origine. L'administration estime que ces 5 jours-là sont suffisants, donc elle ne voit pas de problème à placer les demandeurs d'asile en centre de rétention.
On appelle donc la procédure
prioritaire.
Prioritaire, mais qui est prioritaire, en fait, pas le demandeur d'asile qui est prioritaire.
Non.
Dans sa demande, mais qui est prioritaire pour l'évacuation.
C'est ça, c'est que les délais sont très raccourcis et qu'une fois la décision de l'OFPRA tombée, si elle est négative, la personne peut être expulsée à tout moment. Ensuite, comme autre catégorie de personnes vulnérables et dont on parle régulièrement, malheureusement, ce sont les familles. Ça encore, c'était une promesse de François Hollande, ne plus enfermer les familles en centre de rétention. Il y a une circulaire qui est sortie en 2012, circulaire donc qui normalement n'a même pas force de loi, hein, donc c'est quand même, c'est un texte qui n'a pas force de loi. Donc c'est une circulaire qui est sortie en 2012 et qui en fait est à notre sens beaucoup trop restrictive, puisque même si l'idée générale est de dire on arrête d'enfermer les familles avec enfants mineurs, il y a quand même énormément d'exceptions à cette règle-là. Ce qui fait que là, je peux vous le dire, en 2014, là il y a la 21e famille qui a été placée, a priori, aujourd'hui au centre de rétention du Ménilamlot, alors qu'en 2012, on nous disait qu'il n'y aurait plus de familles placées en centre de rétention. Il y a eu une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que les lieux de rétention, les lieux d'enfermement des étrangers, en France notamment, n'étaient pas adaptés aux enfants, évidemment. Il y a eu énormément d'analyses, de psychologues, etc., qui disent que c'est beaucoup trop traumatisant pour des enfants de se retrouver dans ces lieux-là. Mais ça n'a pas eu d'impact, puisque en 2013, il y a encore eu beaucoup de familles placées en centre de rétention, et c'est encore le cas en 2014, malgré la circulaire et malgré le fait aussi que parfois, parmi les familles qui ont été placées dans les centres de rétention, il est arrivé que ces personnes entrent même pas dans le cadre de cette circulaire. Donc, complètement illégalement, on arrive à placer encore des familles.
En place des familles, on place aussi des mineurs isolés en rétention.
C'est ça, on place des mineurs isolés. Alors normalement, les mineurs isolés ne peuvent pas être placés en centre de rétention. Ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'effectivement, il y ait des personnes qui sont considérées comme étant jeunes majeurs, ou majeurs, tout simplement, en fait, dont la minorité est contestée. En fait, la personne est arrêtée, elle dit être mineure ou pas, elle a ou pas sur elle des documents prouvant sa minorité. Et elle est placée en centre de rétention, alors que c'est complètement illégal, que normalement les personnes mineures ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, donc ne peuvent pas être placées en centre de rétention. Et elle se retrouve placée en centre de rétention, et c'est à elle d'essayer de prouver qu'elle est mineure, sachant qu'elle est enfermée, qu'elle n'a donc accès à aucun document la concernant, qu'il faut donc faire, enfin, appeler la famille, les proches quand il y en a, ce qui n'est pas toujours le cas pour les mineurs isolés qui se trouvent sur notre territoire.
Sinon, ils seraient moins isolés que ça.
Voilà, on ne les appellerait pas comme ça. Et puis, de toute façon, même quand bien même la personne arrive à se procurer un acte de naissance ou quoi, ils sont régulièrement contestés par les autorités françaises qui, du coup, procèdent à ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà abordé ce sujet, j'imagine, les tests osseux.
On l'aborde quasiment toutes les
semaines. Voilà, ben ouais.
Et ce que tu me dis là, ça me fait penser à un jeune qui était à Lyon qui s'appelle Al-Kassim.
Ouais.
Qui s'était retrouvé en rétention en sortant de prison, si mes souvenirs sont bons. Et il avait un os d'un poignet qui donnait 17 ans et demi. Comme c'était trop jeune et qu'il était mineur, on a fait un test de la clavicule qui donnait entre 18 et 36 ans, je crois. Enfin, je dis de tête. Donc, oui, selon les tests, il avait entre 17 ans et demi et 36 ans. Donc, minorité exclue, non, si on fait la moyenne.
Et puis, c'est aberrant parce qu'on sait très bien que ça peut se jouer à un mois près et que voilà, l'État français est censé prendre sous sa protection tous les mineurs de moins de 18 ans. Et on sait que ces tests osseux, ça a été prouvé scientifiquement. C'est le chiffre trouvé peut être variable de 1, 2, 3 ans.
Surtout, ça donne un âge osseux qui est un âge thérapeutique, qui n'est pas un âge légal.
Complètement.
C'est quelque chose qui est extrêmement efficace en tant que test thérapeutique.
Tout à fait.
Mais qui n'est pas fait pour donner un âge légal, qui n'a aucune efficacité pour donner un âge légal, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça.
Tout à fait. Et à ce jour, c'est la seule réponse qui est donnée par l'administration quand une personne est placée au centre de rétention. Et oui, c'est arrivé en 2013 également. Et encore là, en 2014, il y a régulièrement des jeunes placés dans les centres de rétention dont la minorité est mise en doute.
Oui. Et on a d'autres jeunes qui sont placés, d'autres enfants mineurs dont on ne conteste pas la minorité, qui sont en rétention isolés.
Voilà. Alors, isolés, normalement, ils ne peuvent pas, hein, légalement, une personne. Donc, là, ils seront libérés par les juges directement. C'est arrivé, en fait, c'est vrai, que des personnes soient placées. L'administration dit sur le moment qu'elles sont majeures, et puis très vite, elles arrivent à prouver leur minorité. Et dans ce cas-là, elles sont libérées assez rapidement, hein, puisque ça, c'est pas...
Et à Mayotte, hein.
Alors, à Mayotte, ce sont effectivement beaucoup... Alors, c'est les plus gros chiffres à Mayotte. Attends, je vais essayer de trouver les chiffres exacts, parce que c'est aberrant. Il faut savoir, voilà, que parmi les chiffres que j'ai donnés, il y a évidemment l'outre-mer, hein, aussi, qui est compris. Parce que, par contre, il y a quelques temps, il y avait des chiffres qui étaient sortis, mais c'est l'administration qui les avait fournis, qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ceux que nous, on a sortis dans le rapport 2013.
Voilà. Ça,
mais
ça, c'est une
l'outre-mer n'avait pas été pris en compte.
Ça, c'est une partie qui est intéressante dans votre rapport aussi, qui est la partie méthodologique. Mais comme il nous reste 7-8 minutes avant de passer à l'agenda, on ne pourra pas parler de tout. Mais il y a tout le côté méthodologique et de voir comment les chiffres validés par les 5 associations, encore une fois, ce n'est pas une association, c'est 5 associations, ne ressemblent pas tellement aux chiffres fournis par les administrations. Je ne dirais pas l'administration, puisque si on prend le ministère de l'Intérieur ou l'OFI, hein, l'Office français de l'immigration et de
l'intégration.
Donc c'est pas, il y a des chiffres qui ont des variations considérables, où on passe de 6 000 à 7 000 selon la source.
C'est ça, exactement. Et oui, et du coup, tu parlais des mineurs. Effectivement, en 2013, il y a une hausse de 36% des mineurs qui sont placés dans les centres de rétention, et notamment énormément à Mayotte. Où là, c'est de toute façon une zone de non-droit. Tu me parlais tout à l'heure du juge administratif. Le problème, le juge administratif, c'est que même le passage devant ce juge-là, parfois, n'est pas garanti, puisque un grand nombre des mesures qui fondent le placement en rétention des personnes qui sont placées en rétention n'ont pas de recours suspensif. C'est-à-dire qu'on a beau écrire au juge contre ces mesures-là, en contestant la légalité de ces mesures-là, ben, on n'est pas garanti de passer devant le juge, parce que l'administration a le droit de procéder à l'expulsion avant le passage charge devant ce juge-là. Ce qui est le cas aussi pour le juge des libertés et de la détention, mais qui intervient au bout de 5 jours. Là, le tribunal administratif, en général, ça intervient dans les 48 heures. Enfin, il y a 48 heures pour faire un recours. Donc, le passage devant le juge se fait, en général, le troisième jour. Et là, il arrive que ces mesures n'aient pas de recours suspensif. Et c'est le cas en Outre-mer, où là, il y a 99% des gens qui sont expulsés sans avoir vu un juge.
Et les 48 heures, donc il faut savoir faire le recours. Et une des choses qu'on aime bien, c'est déposer les gens en rétention le vendredi soir.
Complètement.
Donc à 18 heures, comme ça, les associatifs ne sont plus là. Samedi soir, ça fait 24 heures. Dimanche soir, ça fait 48 heures. Et lundi matin, quand les associatifs reviennent,
Exactement.
C'est fini.
Exactement. Et puis, de toute façon, en plus, l'administration devrait pouvoir... Le fait que les associations ne soient pas là le week-end, ça ne devrait pas être une entrave au fait de pouvoir exercer ses droits, hein, puisque nous, on n'est pas les garants de l'exercice des droits. On est là pour aider à l'exercice des droits. Donc, l'administration devrait permettre aux personnes enfermées de faire notamment des recours dans les délais quand ils sont là. Ou alors, il faudrait que la législation soit modifiée et que le week-end ne compte pas, par exemple. Mais par contre, on se rend compte qu'effectivement, y a souvent cette stratégie-là de placer en rétention en fin de semaine, parce qu'on sait que les associations sont pas là, que les avocats vont être moins disponibles. Je pensais juste une autre précision aussi sur le rapport 2013, parce que au-delà du fait qu'on constate qu'on est sur la même lignée qu'auparavant, notamment sur le profil des gens placés en centre de rétention, on constate aussi qu'on va de plus en plus vers une sorte d'absurdité de la rétention, puisqu'il y a notamment, parmi tous les gens qui ont été expulsés, 60% le sont dans les pays de l'Union européenne. Donc, en fait, on expulse chez nos voisins. Voilà.
On ne va pas s'en plaindre.
On ne va pas s'en plaindre, effectivement.
Mais là où on va s'en... On expulse, mais...
C'est toute l'ambiguïté de parler de l'absurdité de la rétention, parce que la rétention, ça concerne quand même 45 000 personnes par an, c'est énorme. Mais quand on y pense, quand on compare ce chiffre-là au nombre de sans-papiers qu'on estime en France, qui est très difficile à estimer, hein, mais qui varie entre 200 000, 500 000, on peut aussi se dire que c'est une énorme machine qui ne cesse de fonctionner, qui devient complètement folle, mais qui, en fait, si on parle en termes d'efficacité, qui ne l'est pas, alors que c'est l'argument principal qui est utilisé par l'administration, de dire, par le biais de ces centres, on expulse des sans-papiers, on arrive à réguler les flux migratoires, etc. Même ça, c'est faux, je veux dire. Ouais. Ça coûte un prix faramineux, évidemment. Et en plus de ça, il y a une sorte d'absurdité. Et quand je parle de l'expulsion chez les voisins, en plus, c'est pour beaucoup des gens qui sont en situation régulière en France. Je citais tout à l'heure les gens qui ont des papiers dans d'autres pays de l'Union européenne, dont on s'aperçoit parfois, après qu'elles aient eu le temps de se faire amener des documents, etc., qu'en fait, elles étaient en situation régulière. Mais il y a aussi énormément de ressortissants de l'Union européenne qui eux-mêmes se font enfermer, qui normalement devraient bénéficier de la liberté de circulation, mais à qui on reproche, en général, l'administration leur reproche d'avoir eu un comportement qui menace l'ordre public, sachant qu'en général, c'est une notion qui est très très large, enfin interprétée très largement par l'administration, très mal encadrée par le droit, la menace à l'ordre public, et du coup, et c'est une des seules raisons qui peut fonder l'expulsion d'un ressortissant de l'Union européenne, et du coup, en général, les fondements, ça va être vol d'un vol à la, comment on appelle ça, à l'étalage, des petits éléments, et ça, le problème, c'est qu'en général, les gens comme ça qui sont placés en centre de rétention sur ce fondement-là, savent que si elles sont expulsées dans leur pays d'origine, elles pourront revenir le lendemain, elles bénéficient de la liberté de circulation. Du coup, en général, elles n'ont pas envie d'exercer leur droit à faire un recours. Nous, quand on en rencontre, on discute avec elles, on leur propose de faire des recours. En général, elles n'ont pas envie de perdre ce temps-là. Elles trouvent ça aberrant de se retrouver dans le centre. L'enfermement, c'est quelque chose qui est très traumatisant. Donc, elles préfèrent, à la rigueur, repartir dans leur pays d'origine et savoir qu'elles peuvent revenir le lendemain. Ce qu'on constate, c'est que dans quasiment 100% des cas, je ne vais pas dire de chiffres là-dessus parce que je ne les ai pas, mais la grande majorité de ces personnes, quand elles font un recours, elles sont libérées. C'est-à-dire que le tribunal administratif sanctionne les décisions de la préfecture qui sont illégales. Donc parmi ces 60% en plus, on pense qu'il y a une grande majorité d'entre eux qui sont expulsés sur le fondement de mesures illégales.
Ah, est-ce que tu peux nous dire, donc tu as des gens qui sont en situation, plein de gens qui sont en situation régulière, et j'ai vu dans le rapport qu'il y a des gens qui sont arrêtés à la frontière et donc des demandeurs d'asile.
Ouais.
Des gens qui sont arrêtés à la frontière
qui
et qui ne passent pas par les zones d'attente et qui...
Ouais. Tout à fait. Ça arrive aussi souvent quand ils ont transité, notamment par un autre pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les demandeurs d'asile primo-arrivants, qui donc n'ont même pas eu le temps de formuler leur volonté de demander l'asile sur le territoire français et qui se retrouvent à devoir le faire en rétention. C'est ce que je disais au début, là. Donc, en 5 jours, avec aucun, très très peu de moyens. Il n'y a pas d'interprète qui rentre dans les centres de rétention. Donc, quand ça passe par notre biais, on appelle des interprètes, etc. Mais ça reste des démarches très difficiles pour des gens qui sont généralement complètement traumatisés.
Et j'ai découvert dans ce rapport, hein, c'est un rapport dont je conseille la lecture, qui est disponible sur Internet, sur le site de la CIMADE
notamment, et des autres associations également.
On peut les rappeler quand même, l'Ordre de Malte.
L'Ordre de Malte, l'ASFAM, France Terre d'Asile et Forum Réfugiés, puisque c'est un travail donc, des 5 associations ensemble.
Voilà, et c'est quand même donc, un rapport qui est d'une lecture extrêmement intéressante, et où on découvre, enfin moi je vais pas dire que je croyais tout savoir sur la rétention, loin de là, mais donc j'ai découvert qu'on continuait à pratiquer des arrestations au guichet.
Tout à fait.
Et qu'il y a un certain nombre de pratiques en fait, qui sont un petit peu surprenantes et qu'on croyait avoir disparu quand tu parlais d'arrestations de gens, notamment d'Europe de l'Est.
Tout à fait.
Où en fait je suppose que, pour avoir vu d'autres choses par ailleurs, leur simple présence constitue aux yeux de certains fonctionnaires un trouble à l'ordre public.
Exactement, c'est complètement ciblé.
Monsieur Valls l'a quasiment dit lui-même en disant qu'ils avaient vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie, même si c'était des citoyens français depuis et des familles installées depuis que la Bretagne a été, que la Bretagne soit rattachée à la France. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, c'est pas vraiment notre histoire d'ailleurs. C'est un rapport qui est extrêmement intéressant à lire.
Oui, tout à fait.
Et aussi avec donc plein d'informations en général sur la rétention, sur l'absurdité de la rétention, où on voit toutes les par nationalité, par les durées de moyenne de rétention. Et il y a toute une partie qui est consacrée aux locaux eux-mêmes.
Exactement, il y a aussi les locaux de rétention, puisque là, en fait, juste pour les chiffres rapidement, il y a environ 50 centres et locaux de rétention, sachant que les locaux de rétention, c'est très particulier parce que ce sont des lieux qui ne sont pas vraiment définis, en fait, ce ne sont pas des lieux physiquement définis. Donc ça peut être des commissariats, ça peut être des pièces dans un lieu à côté de là où la personne a été interpellée, et ce sont des lieux où généralement les gens ne peuvent pas bénéficier de leurs droits, exercer leurs droits.
Voilà. Alors maintenant, tu as 30 secondes pour conclure, parce qu'on va passer à notre agenda. Okay. Et je vois que les oreilles longues du front s'installent dans le studio.
Mais très brièvement, simplement, voilà, parce que là, j'ai fait un petit état des lieux, des gros constats qui ont été faits. Mais c'est un rapport que je recommande de lire vraiment. Il y a aussi un extrait sur chaque centre de rétention et pas mal de témoignages aussi sur ce qu'on voit. Voilà, je vous conseille aussi après de vous rendre régulièrement sur le site de la CIMADE où on fait passer notamment beaucoup d'informations sur ce qui se passe, notamment dans les centres de rétention et lieux de rétention où nous intervenons.
Et de le lire en lisant la BD CRA.
Tout à fait.
Voilà, donc tout de suite, on va passer à notre agenda.